Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
On a vu une grande victoire du clan Biden dans les derniers jours où un plan climat a été adopté. Et c'est un plan climat historique. On en parle évidemment avec mon ami Tom Mulcair. Bonjour Tom.
Hey, salut Yasmine.
Ça va bien. Donc ce oui. plan climat qui a été adopté, c'est quand même une première.
Oui, c'est une première. Il y avait beaucoup de promesses lorsque Biden a été élu et beaucoup de déceptions. Après sa première année au pouvoir, il avait nommé quelqu'un que lui, il considérait bien capable de faire le job. Et ouf, c'était à la fois politique et administratif et c'était un échec total en un an. En fait, Yasmine, après un an seulement d'avoir été assermenté président, les États-Unis avaient connu une augmentation de 25% dans la quantité de charbon thermique, charbon brûlé, donc, pour créer de l'électricité, une augmentation de 25% en un an. C'était scandaleux. Et comme beaucoup de gens, j'avais vu énormément de possibilités avec le plan Biden, qui était très songé, soutenu notamment par Janet Yellen, qui était sa présidente qu'on pourrait comparer du Conseil du Trésor aux États-Unis. Et donc, il y avait beaucoup de possibilités dans l'air et beaucoup de pollution dans l'air. Mais finalement, rien n'est arrivé. Et voilà que Biden double la mise. Il va devant le Sénat. Il pousse son plan. Il dit, c'est ça que ça nous prend pour arriver à bout des changements climatiques et de l'augmentation des gaz à effet de serre. Les États-Unis ont promis, Biden a signé l'accord de Paris le premier jour après son arrivée, et lui, il a promis moins 40% d'ici 2030. C'est très ambitieux. Mais tous les experts, Yasmin, se concordent pour dire que le plan qui a été adopté le week-end dernier pourrait faire la job. C'est étonnant, c'est merveilleux pour les générations futures. Et ça nous permet de regarder et de contraster avec ce que le Canada fait et surtout ce que le Canada ne fait pas. Il y a deux semaines, Stephen Guilbeault a encore tenté de justifier l'injustifiable parce que rappelons que Trudeau et Guilbeault ont approuvé un massif nouveau projet d'énergie fossile offshore, qu'on dit, c'est-à-dire au large de Terre-Neuve-Labrador. C'est proprement scandaleux. C'est impossible pour Canada de rencontrer ses obligations avec ce nouveau projet. Et voilà que Guilbeault a commencé à laisser le sortir un tout petit peu du sac, une patte du chat du moins. Il dit, ouais, apparemment, les compagnies nous disent que ça va prendre une couple d'années de plus que ce que je pensais, mais juste une couple d'années, puis on va leur donner des crédits carbone pour telle affaire. C'était tellement compliqué. Tous les experts ont rigolé.
Mais en même temps, Tom, est-ce que les attentes sont juste trop élevées pour Stephen Guilbeault? T'sais, on a tellement d'attentes. On s'attend à ce qu'il incarne encore le Greenpeace. Il y a comme une réalité de la responsabilité ministérielle puis le pouvoir qui finit par frapper à ta porte?
Oui. Puis à ce moment-là, si ça va contre tout ce que tu as toujours dit et que tu sais que c'est complètement factice et que tu n'as aucune chance, possibilité réelle de rencontrer les obligations et ce que tu as promis de faire, tu es face à un choix personnel. Moi, quand j'étais face au choix de signer un décret que j'ai refusé de faire, je voulais je signe un décret pour transférer des terres dans un parc national du Mont Orford vers des entreprises privées pour construire des condominiums. J'ai dit, je le ferai pas. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre pour le faire et j'étais plus au Conseil des ministres. Guilbeault ne se gêne pas de toujours se présenter comme le grand environnementaliste qu'il a déjà été. Mais maintenant, quand ils se présentent dans des événements, les gens regardent les lacets sur leurs chaussures, ils savent plus quoi faire ou quoi dire pour lui expliquer qu'il n'a pas de crédibilité pour venir dans ces événements-là, parce qu'il est en train de travailler avec un gouvernement qui ne cesse d'augmenter notre production des gaz à effet de serre, malgré les belles promesses. De dire, Yasmine, que ce sont les compagnies maintenant, c'est ça qu'il a dit, mot à mot, qui vont dire combien de temps il faut pour rencontrer, ça renvoie au début avec Trudeau. Lorsque les libéraux ont signé Kyoto, ils n'avaient pas de plan. Mais le chef de cabinet de M. Chrétien d'alors, il s'appelait Ellie Goldenberg, a fait un aveu intéressant. Il a dit, c'est vrai qu'on n'avait pas de plan, pour rencontrer les objectifs de Kyoto, mais on a signé pour, et ça c'est son terme exact, pour galvaniser l'opinion publique. Ce qu'il admettait, c'est que pour les libéraux, tout est politique, et bon, le public voulait qu'on en parle un petit peu de gaz à effet de serre, de changement climatique, de Kyoto, on a signé Kyoto, mais le Canada a eu un des pires bilans au monde après la signature de Kyoto, à tel point que, sous les conservateurs, on est devenu le premier pays au monde de sortir de l'accord de Kyoto. Depuis la signature de Paris, le Canada a multiplié les annonces et les plans et on continue de s'enfarger et d'approuver de nouveaux projets de pétrole et de gaz dans le pays. Alors, c'est une contradiction flagrante et Biden, qui a un pays qui produit énormément de pétrole, de gaz et de charbon, est en train de montrer la voie qu'à un moment donné, il faut agir et le Canada n'est toujours pas rendu là.
On parle de 430 milliards d'investissements. Oui. Oui. C'est quand même énorme. Puis là, on parle de c'est les moyens qui sont déposés en même temps que les paroles. Exact. Est-ce que ça va contribuer aux élections de mi-mandat des démocrates qui auront lieu dans 100 jours?
Question fascinante, parce que je sais que toi, tu as joué dans la politique à Québec. Tu sais à quel point les partis essaient de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis leurs promesses. Donc, il y a eu tout un jeu qui a duré toute la fin de semaine dernière où les conservateurs, c'est-à-dire les républicains, versus les progressistes, c'est-à-dire les démocrates, ont essayé de prendre la mesure l'un de l'autre. Alors, un proposait telle affaire mal faire paraître l'autre, et ainsi de suite, tout le week-end, vote par vote. Mais à la fin de la journée, la chose la plus importante qui soit passée, c'est qu'ils ont décidé d'agir. Et c'est ce que le Canada n'a toujours pas fait. C'est pas qu'il manque de la volonté dans la population. Question, donc, est-ce que ça va aider ou nuire? Ça va dépendre comment c'est caractérisé. Moi, j'ai l'impression que l'Américain moyen, moi, j'ai un bon ami qui est républicain, il est pro-Trump. Il sent obligé de s'excuser auprès de ses amis. Il habite à Tallahassee, il était au gouvernement de la Floride. Il se sent gêné de conduire un Tesla. Il dit, mais il faut quand même que je pense à mes petits-enfants. Donc, même des gens qui sont plus à droite en termes de leur idéologie politique, sociale, du côté environnemental, il y a très peu de gens qui sont anti-environnement ouvertement. Donc, je pense que Biden risque de faire le plein de vote dans ce centre un petit peu plus progressiste.
Rapidement, Tom, j'aimerais t'entendre sur une question que je sais qu'on n'a pas prévue, mais je peux pas m'en empêcher. T'as été chef d'un parti politique. Si on t'avait dit que une personne de ton caucus que t'avais nommé ministre a encore une autre plainte d'harcèlement psychologique à propos d'un attaché politique. Il y a eu 2 autres plaintes, il y a eu 14 départs. Est-ce que tu y redonnes sa circonscription pour les élections qui s'en viennent?
Non. Non. Et il faut aller au fond de ces questions-là parce que c'est trop facile quand c'est un et l'autre. Mais comme principe de base, il faut croire les gens qui disent ça parce que pour chaque un qui va finir par faire une plainte, il y en a peut-être eu d'autres. Donc, lorsque ce sont des plaintes à répétition, il faut agir. Et je dois dire que c'est déjà arrivé quand il y avait des plaintes de harcèlement de différentes sortes, que j'agis très rapidement et définitivement, parce qu'on peut pas. C'est complètement un autre sujet, mais c'est la même notion. On parlait tantôt de faire semblant en matière d'action climat. Et on peut pas faire semblant. De croire qu'il faut protéger les employés et par la suite ne pas agir définitivement pour régler le cas.
Je trouve ça fascinant, le cas qui nous occupe entre Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, députée caquiste, avec François Legault. Quelles discussions vont-ils avoir au courant des prochains jours? Va-t-elle demeurer la candidate de la CAQ?
C'est doublement difficile pour Legault parce que Il y a tout le background que toi et moi, on vient de mentionner. Dans le cas de Mme Proulx, il y a des choses qui ont été alléguées sur la place publique et pas vraiment, vraiment niées à ce que je sache. C'est selon son interprétation, mais disons que la manière que ça a été présenté, on serait plus porté à dire que la balance penche en faveur de croire les gens qui ont porté plainte par le passé, mais c'est difficile pour Legault dans un sens. Son bilan de traitement des femmes au sein de son conseil des ministres notamment, dès qu'il y avait le moindre entorse, si c'était une femme, bye-bye, c'était poussé par-dessus bord.
À part Marie-Ève Proulx.
Et dans le cas des gars, on n'a qu'à penser à quelqu'un comme Pierre Fitzgibbon. Il a violé à répétition les règles et la loi en matière d'éthique. La pire peine qu'il a eue, c'est qu'il a été quelques mois en dehors du Conseil des ministres, puis Legault l'a accueilli de nouveau. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit du traitement des membres du Conseil des ministres, qu'on soit un homme ou une femme. Et ça, c'est le genre de choses qui finit par percoler au sein de la population. Et des gens disent, hey, coudonc, c'est un comportement un peu de notre époque, là, de Legault, d'avoir cette différence de traitement entre les femmes et les hommes. Je dis pas que je sais ce qui s'est passé dans le cas de Mme Proulx. Ce que je dis, c'est que... Ouais. Le background aurait eu tendance à donner la réponse, il faut agir rapidement et définitivement. Puis d'un autre côté, il va avoir un autre, tu sais, il y a un ange sur une épaule de Legault, puis un petit diable sur l'autre, en train de danser chacun pour essayer d'avoir son attention. Il est
Tom,
un peu suivre, à cause de son action.
On va suivre la réaction de François Legault au courant des prochains jours et on va probablement s'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se parle demain.